Radio Foot International, Marie-Amélie Mott.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Radio Foot International. Vous l'avez compris, j'ai la lourde tâche de remplacer Madame Annie. Ne vous inquiétez pas, elle revient dans moins d'un mois après des vacances bien méritées. Au programme aujourd'hui, le premier match avec du monde en tribune depuis 4 mois. Le Havre-Paris Saint-Germain, c'était hier, 9-0 pour les Parisiens, très en forme. On va en parler, les 4 fantastiques déjà prêts à passer à l'attaque, visiblement. Et vu ce qui les attend au mois d'août, ce n'est pas plus mal. L'Atalanta Bergame continue à impressionner de partout contre la Juventus Turin. Samedi, Bergame qui méritait sans doute de s'imposer. Manchester City en Europe la saison prochaine. Le tribunal arbitral du sport a annulé l'exclusion du club anglais des Coupes d'Europe pour 2 ans. Quel avenir alors pour le fair play financier de l'UEFA? Et avec moi aujourd'hui pour ce premier Radio Foot de la semaine, Hervé Penaud, grand reporter à l'équipe. Bonjour Hervé.
Oh bah quel plaisir d'être avec Marie-Amélie. Alors on te souhaite une grande première, le début d'une grande carrière.
Merci. Nabil Djellit, votre collègue de France Football, est là également. Bonjour Nabil.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour à tous.
Et enfin, Alejandro Valente complète ce casting de rêve, si je puis dire, pour ma première. Bonjour Effé.
Bonjour Marie-Amélie, bonne émission.
Merci. Allez, Radio Foot, c'est parti.
Di Maria, l'extérieur déposé. Oh là 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 là. Déposé ouais, sur la tête d'Icardi. Ah, c'est pas la classe, Daniel. C'est la grande classe. André Di Maria, Neymar à l'entrée de la surface. Neymar. Oh. Icardi deux fois, Neymar sur ce festival. Ouais. Le Paris Saint-Germain mène 3-0. Quel ballon. Quel ballon de Marco Verratti. Ça va trop vite pour le Havre en ce moment.
Le sud-américain, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous venez là?
Très heureux de revenir au stade. C'est un vrai plaisir d'être dans ce stade Océane qui est très beau. Tous ceux qui sont là dans le stade sont très très heureux de revenir. On a fait très attention au respect des normes de sécurité sanitaire, mais je crois qu'il y a un vrai plaisir d'être enfin à nouveau au stade.
Un vrai plaisir pour Édouard Philippe, le maire du Havre et ancien Premier ministre, et un vrai plaisir pour tous les amoureux du foot, je pense qu'on peut le dire. 5000 spectateurs en tribune hier dimanche 12 juillet au stade Océane pour ce match amical entre le Havre et le Paris Saint-Germain. La première rencontre avec du public depuis mi-mars en Europe occidentale. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, était présente aux côtés d'Édouard Philippe. Alors, on va parler, messieurs, dans un instant de la performance des Parisiens, 9-0 tout de même. Mais avant cela, revenons sur les conditions dans lesquelles se sont déroulés le match hier. Distanciation sociale à respecter, évidemment, dans les gradins, sauf pour les membres d'une même famille. Masque obligatoire et sens de circulation imposé. Alors, malgré toutes ces consignes, est-ce que revenir au stade était un soulagement, un plaisir pour les supporters? Nous sommes en ligne avec Maxime, un traditionnel abonné du Parc des Princes. Il a fait le déplacement jusqu'au stade Océanière. Bonjour Maxime.
Bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre dans Radio Foot International. Alors tout simplement, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez dit hier en rentrant dans le stade?
Un réel plaisir de retrouver un stade de football après quasiment 4 mois d'interruption. De retrouver les joueurs, le club, enfin les clubs. Et vraiment un réel plaisir, un soulagement.
Alors est-ce que toutes les consignes sanitaires à respecter n'étaient pas trop angoissantes finalement?
Non, porter un masque et être un siège à côté d'un autre, c'était largement faisable, c'était très bien même.
Alors la capacité du stade Océane est de 25 000 places habituellement, avec 5 000 spectateurs, comment est-ce que vous avez trouvé l'ambiance?
L'ambiance, déjà il n'y avait pas d'ultra parisien, déjà ça joue beaucoup, mais sinon l'ambiance était bon enfant, c'était vraiment c'était très très bien.
Hervé.
Oui, ça fait du bien de retrouver du football en vrai, hein.
Ah oui, c'est très très. Oui, ça fait beaucoup de bien même.
Ouais. Et vous avez trouvé comment le PSG alors?
Je sais pas si on a vraiment beaucoup d'enseignements à tirer de la rencontre, mais on les a vus en jambes. J'ai vu un Neymar vraiment, vraiment en jambes par rapport à même à l'avant confinement. Et ça fait du bien. Enfin, ce que je voulais, c'était surtout pas de blessure pour les futures séances, pardon.
Et est-ce que ça vous a donné envie de revenir au stade, même avec un tout petit peu de public? Est-ce que vous voyez continuer comme ça pendant peut-être plusieurs mois?
Peut-être pas plusieurs mois, surtout voilà, parce qu'on était 5 000 pour être dans un stade de 25 000. Je pense qu'au stade de France, on aurait pu être beaucoup plus que 5 000, par exemple pour les finales de coupe.
On verra ça pour les finales de coupe dans 15 jours. Merci beaucoup Maxime et à bientôt peut-être dans Radio Foot. Messieurs, vous, est-ce que ça vous a donné envie de retourner au stade?
Moi, tout à fait. Mais j'ai eu la chance moi, de retourner dans un stade puisque j'étais à Évian lors du match entre Lyon et Port-Valais. Alors, imaginez, des 6 Suisses, vous dites, c'est pas terrible. Et ben, je peux vous dire, vous prenez un plaisir incroyable à revoir des joueurs en vrai jouer au football. Nous, c'est notre passion, eux, la leur aussi.
À Évian, c'est un retour aux sources pour vous, quoi.
Parfait. Oh, oui, c'est vrai. C'est plutôt rare pour moi, l'Évian. Et donc, revoir le match du Paris Saint-Germain hier, honnêtement, c'était magnifique. Hein. Ça donne envie de revoir le plus vite possible du football. Et toujours, on s'interroge pourquoi on n'est pas allé plus loin France, hein, avec cet arrêt absolument incroyable des compétitions, alors qu'on se régale devant les autres compétitions.
Mais on cultive le paradoxe. Alors c'est vrai que c'était des images qui étaient sympas, de revoir des familles. Après, moi je trouve qu'on... Moi je pensais que 5000 personnes, on avait plus les disperser dans le stade, mais finalement, tout le monde était plus ou moins dans la même zone. Donc ça, c'est une des questions que je me suis posée sur le coup. Mais après, moi je suis pas spécialisé dans les consignes sanitaires.
Pour ceux qui regardaient les matchs à la télévision, c'était quand même agréable de voir du vrai public, parce qu'on s'est habitué à voir un faux public, des fausses ambiances.
Et d'entendre là, de vraies ambiances, ouais.
Et vraiment, c'était agréable.
Mais on cultive le paradoxe, parce qu'ailleurs, ils continuent les championnats à huis clos, et nous, on reprend avec du public, alors qu'on a arrêté parce qu'il fallait limiter les interactions. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger également. Ça remet sur la table cette question de pourquoi on a arrêté.
Non, mais plus que s'interroger, franchement, c'est, faut le dire, c'est ridicule.
On est des clowns. Tu veux dire qu'on est des clowns,
on est un peu les clowns de l'Europe. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de trouver des matchs amicaux contre soit des équipes françaises, soit écossaises, le Paris Saint-Germain bientôt et Lyon aussi, soit des équipes belges, des gens qui ont arrêté leur championnat. Mais enfin, il y a des championnats qui se poursuivent.
Alors revenons sur le match amical d'hier, donc qui était évidemment déjà déséquilibré sur le papier, puisque le Havre, je le rappelle, est pensionnaire de Ligue 2. Donc les spectateurs n'ont pas été déçus. 9-0 pour le PSG, hein, un festival offensif avec des doublés d'Icardi, Neymar et Sarabia, plus des buts de Mbappé, Gueye et du jeune Kalimuendo. Donc le PSG n'avait plus joué depuis le 11 mars. On se demandait dans quelle forme physique allaient arriver les Parisiens. Messieurs, finalement, ils étaient plutôt en jambes hier.
Alors c'était surprenant. Ce que j'ai trouvé, c'est cette volonté vraiment de pas faire d'erreur, d'être vraiment concentré, d'essayer d'aller au bout de chacune des actions. Parce que sinon, la différence de niveau, le problème avec le Paris Saint-Germain, c'est que la différence de niveau entre les joueurs du Paris Saint-Germain et puis les adversaires du jour, hein, qui étaient les Havrais, était tellement abyssale qu'à un moment, il y a pas de match. C'est-à-dire que si vous laissez 10 mètres à Mbappé, mais même Mbappé, s'il est pas en forme, même si c'est pas du tout entraîné, il prendra toujours 10 ou 15 mètres après d'avance en plus sur le défenseur. Donc si vous voulez, l'affrontement, l'opposition était vraiment très, 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 très faible, mais j'ai aimé voir ce Paris Saint-Germain là avec un esprit collectif intéressant et puis une qualité dans les passes, et là pour le coup ça prouve qu'il y avait vraiment de la concentration et c'est bien.
Et ils ont mis de l'intensité pendant tout le match. Absolument. Alors qu'on leur reproche parfois de lever le pied.
Et c'est vrai qu'il y avait deux mi-temps très différentes aussi.
Deux 11 différents à chaque
deux
fois.
Deux 11 carrément différents, mais la première mi-temps était quand même assez emballante parce qu'on a vu des jolis buts, des très jolis gestes, même à l'entraînement, ce sont des choses qu'on aurait apprécié. Donc dans un match même très amical face à une équipe qui visiblement n'avait pas non plus joué depuis 4 mois, c'était vraiment du plaisir et on sentait quand même que cette équipe parisienne a toujours des atouts extraordinaires.
Non, mais c'est vrai que c'est l'infiniment petit contre l'infiniment grand. Je veux dire, il y a un moment, il y a un tel écart. Alors, ce qui était agréable, c'est, Hervé en a parlé, c'est quand même l'implication, le plaisir de rejouer tout simplement au foot comme des enfants. Quand on est privé de quelque chose, on a ressenti cette envie tout simplement de rejouer au foot, prendre du plaisir. Après, c'est vrai qu'on est toujours, ils ont beau le refaire, on reste toujours ébahi par le talent de Neymar quand il réussit son festival, ou par la vitesse bionique, entre guillemets, des enchaînements de Mbappé. Ça leur a permis également aussi, du côté du Paris Saint-Germain, de donner du temps de jeu aux jeunes en deuxième mi-temps. On pense notamment à celui qui est une des promesses du Paris Saint-Germain qu'il va falloir verrouiller, c'est le jeune Caïs Ruiz, par exemple, qui a apparu pour la première fois en professionnel. Et c'est toujours ça, même si Kouassi est parti, même si Aouchiche va partir, on voit que le Paris Saint-Germain a toujours de la réserve avec des jeunes de qualité encore.
Mais ça, c'est des jeunes qui joueront les premiers matchs, mais on les a connus les années précédentes. J'étais au stage du Paris Saint-Germain en Autriche quand Nkunku avait fait ses premières apparitions. Mais après, le problème, c'est qu'ils peuvent pas s'insérer dans un tel effectif. Le jeune joueur dont tu parles, effectivement, c'est une promesse incroyable, c'est un jeune très talentueux. Mais aujourd'hui, pour arriver à rentrer dans ce Paris Saint-Germain-là, le premier Paris Saint-Germain de la première mi-temps, notamment, hein, après auquel on pourrait adjoindre Verratti, Gueye, les Thiago Silva, les 4-5 joueurs qui sont rentrés en deuxième période. Mais je veux dire, la porte est quasiment fermée à double tour, vu le niveau hein, proposé.
On a quand même l'exemple de Presnel Kimpembe qui vient de prolonger jusqu'en 2024.
Mais c'est l'un des rares. Et il y avait Rabiot aussi. Mais c'est-à-dire que le problème des gens au Paris Saint-Germain, enfin des suiveurs du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont toujours, les supporters plutôt du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont toujours l'impression que les jeunes du Paris Saint-Germain sont des joueurs hors normes. Mais le problème, c'est qu'ils sont hors normes, effectivement, pour leur âge, mais ils n'ont pas le niveau pour intégrer le Paris Saint-Germain. En revanche, ils peuvent passer par Leipzig, par Dortmund, qui sont des clubs un peu moins forts en termes de concurrence, pas moins forts en termes de qualité, on le voit sur les résultats, mais en tout cas, de s'insérer là-dedans, prendre la place d'un Verratti, c'est pas simple. Prendre la place d'un Mbappé, d'un Neymar, j'en parle même pas. Et derrière, Kimpembe, ce qu'il a fait grâce aussi à l'équipe de France, c'est très très fort.
Et c'est vrai aussi que dans l'ensemble, tous les grands clubs connaissent un peu la même difficulté. Barcelone, le Real Madrid, etc. On sait que quand jeune a beaucoup de mal à percer. Et
c'est... Oui, surtout en ce moment, personne ne peut prendre la place de Griezmann. Je suis un peu dur, il est taquin, il faut.
D'autant plus que Fatih revient du centre. Hein. Pas...
Ouais. Mais il est en dessous de tout, Fatih.
Alors, on se recentre sur le PSG, donc c'est impossible effectivement de prendre la place dans des quatre fantastiques devant. En particulier, donc ils étaient alignés tous les quatre ensemble hier pendant la première mi-temps. 4 mois sans match officiel, mais les automatismes étaient toujours là.
Oui, mais c'est aussi dû à l'adversité, quoi. Je veux dire, de pas être capable de presser haut, techniquement vite être déséquilibré par la qualité de transmission du Paris Saint-Germain. Après, moi, je veux bien qu'on leur tresse des lauriers, il n'y a pas de problème, mais rendez-vous, on va en parler, mais rendez-vous face à l'Atalanta en Ligue des Champions. Voilà.
Je pense que Tuchel a eu raison de les aligner ensemble quand même en début de match, parce que ça a permis de les voir tous les quatre et ça a contribué un petit peu à l'impression favorable que le Paris Saint-Germain a laissée. Je pense que ça aurait été moins sympa s'il avait mis Mbappé en première mi-temps et Neymar en deuxième mi-temps. On avait envie de les voir tous ensemble.
Et on les a sentis heureux de jouer ensemble.
Ouais, bien sûr. Mais il avait besoin d'aller vite, hein, parce qu'il faut bien se rendre compte que Saint-Etienne, c'est en 2 semaines. Après, vous avez Lyon, et puis après, la Coupe d'Europe.
Déjà, face à Saint-Etienne, ça sera déjà un peu plus intéressant. Mais pour jouer à peu près ce Paris Saint-Germain.
Contre un adversaire qui n'aura pas de match non plus, parce qu'il faut bien se rendre compte. Vous savez, les campagnes de préparation, de matchs de préparation, j'en ai vécu des tonnes. Donc, j'évite d'avoir des analyses sur ces matchs-là.
Mais ça m'arrive. Gagner tous les matchs de préparation et commencer le championnat d'une manière catastrophique.
Et j'allais donner cet exemple avec Marseille une année que je suivais. Ouais. Ils avaient été énormes. Et là, pour une fois, j'étais sorti de ma théorie en me disant, finalement, ces matchs de préparation me laissent dire que, finalement, au bout d'un mois, Albert Raymond était viré. Parce que, il était 17e à l'époque du championnat. Donc, il faut toujours se méfier. Et comme l'a dit Nabil, la différence de niveau est tellement importante que c'est simple pour un Neymar de faire une différence. Si vous jouez contre Neymar au football, il va s'amuser avec vous, même s'il n'est pas du tout préparé, il vient de manger une paella à 14h. Donc, la différence est telle. C'est pour ça que moi, je trouve qu'il faut surtout insister sur le fait que les joueurs ont vraiment fait ce qu'on leur demandait. Ils ont été concentrés, ils n'ont pas fait n'importe quoi, ils auraient pu en rajouter, ils n'en ont pas rajouté. Et tu parlais des joueurs qui ont été impressionnants. Je crois que Di Maria, sur la qualité de passe, vraiment, ça a été quelque chose d'assez fort.
Deux passes décisives pour Angel Di Maria hier. Un petit mot sur la défense. Kerrer, Marquinhos, Kimpembe et Bakker, c'était les quatre derrière en première mi-temps. Thiago Silva n'est arrivé qu'après la pause. Est-ce que ça veut dire que Thomas Tuchel ne le voit pas comme un potentiel titulaire pour les matchs à venir et notamment pour les finales de coupe
ou... Je pense qu'il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. On verra selon la forme du moment. Moi, très sincèrement, même s'il est en fin de contrat, entre Kerrer et Thiago Silva, j'ai vite choisi. Ça reste quand même un taulier, un joueur expérimenté.
C'est pas entre Kerrer et Thiago Silva.
Non, c'est entre Kimpembe et Thiago Silva.
Donc ouais, il faudra qu'il fasse un choix.
Si Marquinhos joue en défenseur.
Voilà. Sauf si Marquinhos monte d'un cran à terme. Sûr, mais pour moi, dans l'absolu, après on peut être pas d'accord, mais moi pour moi la meilleure charnière c'est Thiago Silva Marquinhos.
Je pense que c'est l'avenir puisque le départ de Thiago Silva a tendance quand même à imposer ce choix en défense centrale. Mais semble
Marquinhos Kimpembe.
Oui. Marquinhos Kimpembe, oui.
Oui, mais on a la sensation. En plus, il a fait une super préparation. J'ai vu qu'au test physique, il avait été le meilleur avec notre ami Idrissa Gueye, hein, le Sénégalais. Et ils ont fait apparemment des tests très très forts. Donc ça prouve que Kimpembe, il a vraiment envie de s'imposer cette année. Parce qu'on a souvent moqué un peu son attitude, le côté il est champion du monde, mais il a pas toujours de... Il a prolongé.
Donc ça, en général, c'est bon.
Il en veut vraiment. Et maintenant, c'est à lui de s'imposer totalement. et en tout cas il en a les capacités.
Le problème du Paris Saint-Germain, c'est que tu peux jouer des matchs face à des poids mouches, et puis tu vas arriver face à l'Atalanta, même si c'est pas un poids lourd et c'est un poids Walter, mais c'est un poids Walter un peu énervé. Donc il y a l'adaptation, hein, un changement de rythme, un changement d'intensité, un changement de calibre d'adversaire. Si tu joues des poids Walter jusqu'à un poids Walter, t'auras aucun problème le premier quart d'heure. Mais le problème, c'est ça la question, c'est de savoir, c'est est-ce que le changement de braquet va se faire automatiquement dès le premier quart d'heure ou pas. Et il y aura un changement de braquet parce que l'Atalanta et les autres équipes européennes, je suis désolé, c'est pas le Havre, c'est pas Saint-Etienne.
Et parce que la vraie question, c'est comment gérer l'intensité des matchs de l'autre compétition. Et alors chacun a ses théories. À Lyon, ils ont une autre théorie. Par exemple, ils ont fait une préparation un peu plus longue, qu'ils ont entrecoupée, et en demandant aux joueurs d'aller au bout du bout. C'est-à-dire un premier match amical entre eux, à huis clos, ils sont allés sur 90 minutes. Le premier match amical, Garcia a changé un joueur, il a fait re-rentrer, un seul joueur. Et le deuxième match, ils sont allés au bout aussi sur 67-70 minutes pour essayer de travailler sur la fatigue et arriver à être dans un état un peu fatigue qui permettrait d'aller un petit peu plus loin. Là, le Paris Saint-Germain a opté pour une deuxième solution, qui est une première mi-temps, une deuxième mi-temps. On va voir comment ils vont faire sur les prochains matchs. Parce que le problème de ce genre de solution, c'est que vous avez, comme dans tous les débuts de saison, des joueurs qui sont bons 70 minutes, puis au bout d'un moment, ils plongent un peu.
Et puis ils dans le dur.
C'est des joueurs qui ont faim, quand même, on l'a vu. Ils auraient pu lever le pied plus vite ou commencer à faire à circuler la balle. Et nous, ils ont envie d'y aller et ils y croient, d'autant plus que le tirage au sort leur a été très favorable. Ils voient quand même la perspective d'une finale qui n'est pas utopique.
Disons que la chance qu'ils ont effectivement quand ils regardent leur tirage au sort, même si je rejoindrai Nabil sur certains points face à l'adversité qu'ils devraient avoir, et s'ils se qualifient déjà contre l'Atalanta, mais c'est que vous n'avez pas le numéro 1 en Angleterre, qui est le numéro 1 qui est Manchester City, puisque Liverpool est éliminé, vous n'avez pas le numéro 1 en Italie, vous n'avez pas le numéro 1 en Allemagne, et vous n'avez pas le numéro 1, les deux numéro 1 en Espagne. Donc effectivement, logiquement, l'adversité est un peu plus faible.
C'est vrai qu'il y a l'Atlético Madrid peut-être en demi-finale, mais quand même l'Atlético Madrid aujourd'hui n'est pas l'épouvantail qu'il a été. Donc,
messieurs, je vous sens très impatient de parler de l'Atalanta. Je rappelle juste le calendrier du PSG. Donc deux matchs amicaux d'ici à la semaine prochaine. Dans 10 jours, la finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. Et une semaine plus tard, le 31 juillet, finale de la Coupe de la Ligue contre l'Olympique Lyonnais. Et ensuite, ce sera la Ligue des Champions début août, quart de finale face à l'Atalanta Bergame. Et on en parle tout de suite.
Baby, referee's given the penalty. 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 Penalty, they've got it.
Le penalty, il est bien là. Et Cristiano Ronaldo, il est dedans. Un but partout.
Baby, penalty.
Non, c'est incroyable.
Et de 28 buts pour monsieur Cristiano Ronaldo. La Juve revient de loin, de très très loin.
La Juve s'est fait peur en effet samedi à Turin, de partout face à l'Atalanta. De très jolis buts côté Bergame, Zapata et Malinowski. Et de pénalty pour la Juve, on l'a entendu, donc doublé de Cristiano Ronaldo. De pénalty assez sévère, non messieurs, à chaque fois pour des mains décollées dans la surface.
C'est un hold-up incroyable, ce match, c'est surréaliste. Je n'utiliserai pas d'autres termes, je veux dire, c'était une vieille dame face à la déesse de Bergame, je veux dire, c'était incroyable.
Belle
fois. Je suis désolé, mais je suis un peu direct, mais la meilleure équipe d'Italie, c'est Bergame. Je veux pas dire ça pour faire peur aux supporters du Paris Saint-Germain qui nous écoutent, mais sur ce qu'elle produit, sur le contenu. Alors certes, elle a des failles.
On va parler du contenu dans un instant, juste sur les pénaltys, Nabil.
Pénalty, le deuxième, je le donne pas, le premier, peut-être.
Ouais.
Voilà.
Harvey.
C'est compliqué ces histoires de pénalty, hein, parce que là on se retrouve toujours confronté à la même réalité.
Ça touche la main et c'est pénalty.
Si on estime que ça touche la main, il y a pénalty.
Et qu'on le dise une bonne fois pour toutes.
Et puis terminé.
Mais c'est pas comme ça.
Le règlement n'est pas
c'est
ça.
C'est uniquement pour les actions offensives que la main vaut systématiquement pénalty. Là,
parce que la main de Muriel, elle va pas vers le ballon, c'est le ballon qui retombe sur la main.
Et là, c'est même pas la faute de l'avant, puisque l'arbitre pour le deuxième pénalty est allé direct siffler le pénalty. Il n'a pas hésité une seconde. Mais pour moi, c'est absurde parce que c'était clairement une main involontaire.
Mais on lui a pas. Je pense que dans le camion là-bas, les gens lui ont dit aussi, tu t'es pas trompé. En tout cas, ne lui ont pas dit tu t'es trompé, parce que l'idée quand même, pour revenir sur une décision, c'est si les gens qui regardent à la vidéo l'action disent ah non, nous on n'est pas d'accord. Donc dans ces cas-là, il y a discussion, il y a possibilité d'aller revoir. Mais à partir du moment où il y a même ne serait-ce que 20% de possibilité que ce soit réel, eh ben ils acceptent.
Non, mais
le
là, ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a vu en Angleterre, en Espagne, etc. Ouais. Il y a un vrai problème de cohérence de l'arbitrage, des critères qui sont appliquées de manière extrêmement variable d'un match à l'autre.
Bien sûr.
Et je pense que la FIFA a décidé de se saisir du dossier pour essayer de...
C'est une bonne nouvelle.
De régler ça, parce que sinon, on va à la catastrophe.
Mais c'est pas simple quand même, hein, parce que ça fait quand même quelques années que je suis le football, 10, hein, ouais. De mon âge, et je peux vous dire que des mains et des discussions autour des mains, j'en ai entendu... Depuis que j'ai débuté ma carrière.
Mais là, dans les deux cas, il n'y avait pas un danger de but, enfin, qui a été dissipé. Dans le deuxième, même la balle est en train de quitter la surface.
Oui, voilà.
Oui, mais comme c'est lié vraiment à cette notion de main, c'est à l'arrière qu'il y ait but, pas but, que ce soit dangereux, pas dangereux, ça c'est secondaire.
Moi, j'aurais aimé voir si ça avait été dans l'autre sens, si les pénalties auraient été sifflées pour Bergam. Je pose la question naïvement.
Voilà. C'est le problème avec la Juve, c'est-à-dire qu'on se pose toujours des questions.
C'est le problème avec toutes les grosses équipes.
Toutes les grosses équipes. Mais surtout la Juve, quand même, qui a un passé en Italie assez célèbre, hein, sur la capacité à amadouer, on va dire, les arbitres.
Bon, en tout cas, sur le plan tactique et sur l'animation, les joueurs de l'Atalanta méritaient clairement de l'emporter, hein, je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déclaré leur entraîneur Gian Piero Gasperini après le match.
Abbiamo fatto veramente un grand primo tempo, secondo
tempo. Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps, puis la Juve est revenue en seconde période. Mais avec notre système de jeu, nous avons réussi à mener et nous avons fait un très bon match. Nous sommes un peu déçus car ce soir, nous méritions de gagner. Mais dans le foot, il ne suffit pas toujours de faire une bonne prestation.
Bon, il a de quoi être déçu, Gasperini.
Ah oui, bien sûr, bah, c'est évident, hein, parce que Nabil l'a très bien expliqué, c'est-à-dire que la qualité collective de cet effectif, c'est stupéfiant. C'est-à-dire que ce qui prouve qu'on peut avoir un budget qui est le 10 ou 11e de la Serie A, être capable de produire un tel type de jeu, et donc être capable de mettre en difficulté les adversaires, apparemment, à première vue, vraiment supérieurs. Donc ça donne quand même pas mal d'espoir aussi au club français.
Oui, ils ont joué de façon complètement décomplexée, quoi.
Bah, pour rebondir sur l'histoire du budget, c'est deux fois moins que l'Olympique lyonnais, l'Atalanta de Bergame, en termes de budget. J'ai l'impression que collectivement, sur le rendu, c'est deux fois meilleur. Ce qui ne veut pas dire que Lyon ne va pas passer la Juve, et on le souhaite. Après, sur le football, il n'y a pas de surprise.
Juste une petite chose, c'est qu'ils ne l'utilisent pas pour les mêmes choses.
Oui.
Parce que ça, bon. Faut pas que la comparaison n'est pas raison sur les budgets, en tout cas.
Oui, pas tout le temps, mais bon, ça situe quand même la réussite de Bergame par rapport à ce qui se fait ailleurs en Europe en termes de budget. Mais après, pour en revenir à Bergame, il n'y a pas vraiment de surprise non plus. Je veux dire, ils ont un super coach. Il y a une certaine stabilité depuis 3 ans. Ils recrutent bien, le groupe semble bien vivre, donc ils alignent tous les ingrédients pour performer. Et puis vous pouvez prendre certains joueurs de Bergame, vous allez les mettre au Barça, à la Juve, ils n'auront pas le même rendement.
Évidemment.
Muriel, par exemple, il avait joué à Séville, ouais. Il était largement passé discrètement, on ne l'avait pas beaucoup remarqué, et là il nous sort des trucs incroyables. Donc effectivement, ce sont des joueurs qui pourraient ne pas fonctionner ailleurs, et certains vont augmenter leur valeur.
Là, c'est le talent de l'entraîneur quand même, hein, pour le coup.
Ouais, et qui prennent du plaisir à jouer ensemble, parce que même devant le leader, la Juve, ils étaient très libérés.
Ah oui, non, mais c'est pour ça qu'on en revient quand même un fondamental du football, c'est que le football est un sport collectif. On l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pointe que des individus. Messi, Ronaldo, etc., etc., Neymar, Mbappé. Mais ça, c'est quand même le principe du football, c'est le collectif. Et là, ce qu'on voit avec des joueurs qui seraient peut-être pas titulaires dans des grands clubs, et la plupart certainement pas, et ben, ils sont capables collectivement, et c'est là où j'en ai tout à fait Nabil, c'est-à-dire que c'est le poids aussi de l'entraîneur, qui a réussi à trouver une espèce d'alchimie, et c'est pas toujours simple, et c'est même ce qu'il y a de plus dur à trouver dans un effectif. Et cette alchimie-là, bah, rend cet Atalanta, en ce moment, quasiment je dis pas invincible, mais pas loin.
Irrésistible. Mais ce qui était un peu étonnant, c'est de voir la Juventus qui pratiquement renonçait à avoir le contrôle du ballon, qui jouait presque comme une petite équipe qui acceptait la domination de l'adversaire sans réserve, pratiquement. C'était assez incroyable. D'ailleurs, à la Juve, on a remarqué peu de joueurs dans ce match.
Oui, au classement, l'Atalanta, troisième, revient à un point du deuxième, la Lazio. L'Atalanta, meilleure attaque de Serie A, il ne faut pas l'oublier quand même, 87 buts, c'est 20 de plus que la Juve. Et dans les grands championnats européens, seuls City et le Bayern font mieux. C'est quand même des références. Cette équipe a clairement les moyens de contrer, d'embêter le PSG le 12 août prochain.
Ah, bien sûr. Et puis alors là, on a une équipe qui est vraiment en pleine bourre, hein, dit de manière triviale, mais avec un Paris Saint-Germain, on en parlait tout à l'heure, on ne sait pas exactement dans quel état physique ils seront. Comment ils pourront piocher au bout de 70 minutes, 80 minutes. Alors, sur un match, tout est possible, hein, évidemment, mais cette équipe-là, il ne faut pas la prendre à la légère. J'ai un peu peur du cadeau un peu empoisonné, où tout le monde se dit, oh, l'Atalanta, ça va être dans la poche. S'ils jouent comme ils jouent en ce moment, moment, avec un peu plus de réussite devant les buts, attention, ça va être très dur pour le Paris Saint-Germain.
Après, bon, il y a quand même des, c'est, parfois la défense accompagne assez haut le milieu de terrain, il y a quand même dans le dos des espaces. Et ça peut correspondre au point fort du Paris Saint-Germain avec Di Maria qui plonge, avec Mbappé, Neymar. Alors concrètement, individuellement, si le Paris Saint-Germain, les joueurs du PSG peuvent faire des différences face à, face aux défenseurs de l'Atalanta dans l'animation. Après, ce qui est là où t'as raison, c'est qu'il joue bien au foot. Il joue bien au foot. Il crée des déséquilibres sur les côtés. Et vous parliez à juste titre de leur impact offensif avec 87 buts. Les buts, ils viennent de partout. Muriel, 17 buts. Zapata, le Colombien, c'est un monstre.
Franchement, ils ont trois attaquants à plus de 15 buts.
Le Serbe, il y a un Serbe, Josip Ilicic. Folland, pied gauche. On dirait un joueur des années 90, mais pétri de talent sur un match, il peut tout faire. Donc c'est vrai que c'est aussi du côté de la Juve, quand on a vu le match, Dybala était très remuant. Vous surveillez, vous verrouillez Ronaldo et un peu Dybala, le pouvoir offensif de la Juve, il est presque cadenassé entre guillemets. Mais de l'autre côté, ça vient de partout, ça vient des côtés, avec des pistons qui sont aussi extrêmement importants dans le jeu de Gasperini. On a vu Castagne, mais c'est pas lui le titulaire. Et Castagne, c'était quasiment le meilleur joueur, c'est un remplaçant sur le côté gauche. Donc c'est une équipe, franchement, qui est très surprenante. Et comme le dit Hervé, ça peut ressembler à un cadeau empoisonné pour le Paris Saint-Germain.
Le deuxième but, celui de Malinowski, est quand même assez remarquable, parce qu'on voit comment Muriel, en levant les yeux et en faisant une passe un petit peu devant la surface, il met toute la défense dans le vent. Et Malinowski conclut parfaitement.
Et le Colombien, il est fort, Alejandro là.
Zapata. Oui, ouais, bien sûr.
C'est un joueur qui peut. Alors, on parlait de joueurs qui peuvent peut-être pas franchir le gap dans des top clubs, mais lui, Zapata, tu le mets à l'Atlético, il joue. Hein.
Alors, il faut quand même remarquer que lui, comme la plupart de ces joueurs, ne sont pas arrivés au dernier moment à Bergame. Ils sont en Italie depuis longtemps. Ils ont pratiquement fait toute leur carrière là-bas. Donc, ils sont très habitués au football italien. Ils sont parfaitement acclimatés, c'est presque des Italiens de footballeurs à l'italien.
Et puis il y a surtout Papu Gomez, on n'en parle pas, qui est un élément clé, l'Argentin qui fait le lien entre l'attaque et le milieu. Pour moi, c'est le joueur le plus important.
Bah, on a l'impression quand même que le plus important, c'est le collectif. Plus que les joueurs individuels.
C'est beau ce que tu dis, Hervé.
Oui, mais de temps en temps, j'ai des belles choses. Tu peux m'enregistrer.
Je suis ému, là.
Après, il faut pas oublier que l'Atalanta a connu des hauts et des bas cette saison. Ils ont des moments faibles. Là, on sent qu'ils sont au top de leur forme et peut-être un peu trop tôt par rapport aux grandes échéances du mois d'août.
Et puis ils n'ont aucune expérience en Ligue des Champions.
C'est une drôle de Ligue des Champions aussi.
Oui,
attention,
voilà.
C'est sur un match sans public. Donc aujourd'hui, on peut pas savoir. Personne ne peut prédire ce qui va se passer sur ces gros matchs-là.
Parce que
le Paris Saint-Germain, on ne sait pas dans quelle forme ils seront. L'Atalanta, on ne sait pas comment ils auront géré la fin de leur championnat d'Italie et après la reprise sur la Coupe d'Europe. Je vois pas des joueurs tellement impactés par un quart de finale de Ligue des Champions à partir du moment où vous jouez à huis clos. Enfin, parce qu'il y a quand même beaucoup moins de pression. Même en termes médiatiques, logiquement, ça devrait être assez léger. Alors, il y aura beaucoup de journalistes, parce qu'il y a pas mal de, les clubs ont droit de venir avec pas mal de journalistes, ça doit être 25, je crois.
Je suis pas invité. Allez-y.
Mais il n'empêche qu'ensuite, après, c'est pas des conférences de presse avec une énorme pression qu'il va y avoir, et ça pourrait être même en vidéoconférence. Donc, tout ça fait qu'à un moment, l'impact est un peu diminué, à mon avis.
Mais ça les avantage, c'est sur
bien
un
sûr,
match. Il n'y a pas
sûr.
De gestion de, ils ont pas, ils peuvent, s'ils réussissent bien un bon sûr. Résultat, ils n'ont pas à le gérer.
En tout cas, on est sûr qu'il y aura un final, une équipe qui n'aura jamais gagné la Ligue des Champions. Donc ça donne quand même des idées à toutes ces équipes qui sont dans cette moitié de tableau et qui peuvent rêver, comme le PSG, d'aller au bout.
Tout à fait. Alors, c'est bien dit aussi.
Très bien dit.
C'est pour ça que c'est le refait, t'as compris
Faut pas me le rappeler, ça me met la pression.
Non.
Bon, un petit mot sur la Juve qui, elle, a gagné la Ligue des Champions un certain nombre de fois. Donc la Juve leader de Serie A, mais qui cale depuis deux matchs. Bon, rien d'inquiétant vu que la Lazio est 8 points derrière au classement. Mais on a senti les hommes de Maurizio Sarri dépassés face au Milan AC, face à l'Atalanta ce week-end. Selon vous, messieurs, c'est surtout parce que leurs adversaires ont sorti un match énorme ou est-ce qu'il y a un problème un peu plus profond du côté de Turin?
On l'a vu en Ligue des Champions face à Lyon. On rappelle qu'ils ont été battus par les Lyonnais. C'est pas le Paris Saint-Germain qui a battu la Juve, c'est Lyon. Ça témoigne quand même d'une équipe qui est sur courant alternatif, qui son expérience et le talent de ses joueurs lui suffit entre guillemets en Serie A, parce que ça a manqué de constance et de régularité du côté de l'Inter, du côté de la Lazio, qui est une équipe un petit peu surprise. Mais franchement, ça manque, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça manque de créativité au milieu de terrain. Là, ça joue, là franchement, le seul joueur qui sortait un peu du lot, Ronaldo met deux pénaltys, mais enfin c'est Dybala. Hein. C'est Dybala qui a été un peu l'élément, l'étincelle du côté de cette Juve. Et défensivement, moi j'ai vu quand même des erreurs inhabituelles. Alors, ils ont une telle culture que même désorganisés, ils pourront toujours très bien défendre. Mais je terminerai là-dessus. Un garçon comme Danilo, qu'est-ce qu'il fait à la Juve? Il n'y a pas de niveau pour jouer à la Juve.
Oui. Non, il y a effectivement beaucoup de carences. Même la charnière centrale n'offrait pas beaucoup de garanties. Et malgré les prestiges de De Ligt et Bonucci, on sent quand même que c'est une équipe qui est prenable. Et je pense que ça peut donner des idées aux Lyonnais.
De Ligt, très, très fragile.
Mais elle est prenable. Mais si elle a de la chance à chaque fois, même en Ligue des Champions, avec des pénaltys venus d'ailleurs, en fait, comment?
Mais oui, bah De Ligt, c'est l'exemple type. On parlait tout à l'heure du pouvoir collectif des équipes qui permettent aux individus de se mettre en valeur. Bah De Ligt, quand il était à l'Ajax, il était énorme. C'est-à-dire que là, c'est un peu plus difficile parce que le contexte est plus compliqué. Maintenant, je me méfie quand même de cette Juve-là. Oui, il ne faut pas oublier que la Juve, ils sont largement en tête dans le championnat d'Italie. Alors, c'est à un moment, ils ont quand même fait le boulot. Il a bien fallu qu'ils gagnent des matchs. Hein, et le fait d'égaliser sur la fin, effectivement, sur une action qui n'existe pas, mais n'empêche, c'est une équipe qui laisse jamais rien tomber. Vous avez un Cristiano Ronaldo, il rêve absolument de cette Ligue des Champions. Oui. Et quand un joueur comme ça rêve de ça, je peux vous dire que ça entraîne l'équipe vers le haut. Et puis, il y a d'autres joueurs de très haut niveau. Hein. Là, on parle quand même d'une équipe qui est susceptible de remporter cette Ligue des Champions. Donc Lyon, ils sont quand même un petit peu loin de ça. Maintenant, ils ont un but d'avance dans un stade vide, avec la pression inhérente, effectivement, au fait qu'ils peuvent ne pas passer la Juve. Hein. Mais ça, ils savent gérer. Hein. Ouais.
Mais Hervé, vous dites que Ronaldo rêve de gagner la Ligue des Champions. Il n'est pas flamboyant depuis la reprise, Ronaldo.
Mais flamboyant, alors on parlait du nombre de buts qu'il a déjà inscrits depuis le début de la saison. Ouais. Mais on ne se rend pas compte.
Ouais, voilà, c'est
il a changé son jeu.
Il y a beaucoup de pénalty quand même.
Oui, alors il y a beaucoup de pénalty, mais il revient à une longueur de tirs immobiliers au classement des buteurs. Il en a marqué 28.
28 buts de marqués. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de pénalty, mais ça veut dire qu'il est là au bon moment, toujours à l'instant. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. C'est-à-dire qu'il ne faut plus. Allez, on oublie complètement, on efface, on gomme, on fait tout ce que veut de l'ancien Ronaldo. Celui qui driblait tout le monde, celui qui faisait des différences. Aujourd'hui, il faut voir le de Ronaldo, celui qui est placé exactement à l'endroit où il faut, au moment où il faut. Celui qui peut peut-être, à 86e minute d'un match ultra serré, arrivera à débloquer la situation contre Lyon. Et ce Ronaldo-là, il est là. Il a 28 buts quand même depuis le début de saison. Parce que les pénaltys, oui, il faut les mettre.
En Serie A.
Mais en tout cas, comme disait Marie-Amélie, je pense que pour nous et pour Lyon, le plus intéressant, c'est quand même que la défense de la Juve laisse des espaces et que Lyon, en marquant un but, pourrait faire un grand pas vers la qualification, puisque la Juve serait obligée d'en marquer trois.
Ouais, moi, je j'y crois pas. Je pense que la Juve va passer. On verra. En plus, je les sens avoir un pénalty au retour, parce qu'à l'aller, je crois que ça, s'il n'y avait pas des situations litigieuses.
Deux situations litigieuses.
Où il n'y a pas eu pénalty pour la Juve.
Il n'y a pas eu pénalty.
Il y aura pas d'arbitre.
Je vous mets une pièce sur un péno au retour pour la Juve.
Il n'y aura pas d'arbitre italien, a priori.
Ah.
Et puis il y aura comme le VAR.
Contre Lyon. Oui, ça, c'est pas une garantie.
Un petit mot sur Rabiot et Matuidi, les Français de la Juve alignés ensemble samedi.
Bah, Matuidi, il est pas dans la meilleure forme de sa carrière, mais avec lui, c'est pareil. Moi, c'est un joueur auquel j'ai vraiment aucun souci avec lui. On sait que de toute façon, il saura se préparer pour les moments importants. Et puis Rabiot, c'est toujours le Rabiot qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il va nous enflammer avec un but venu d'ailleurs il y a une semaine, un truc absolument incroyable. Et puis d'un autre côté, des hauts et des bas, des pertes de balles. Là, il y a une perte de balles quand même sur le but de l'Atalanta. Et il faut qu'il arrive à hausser aussi lui son niveau de concentration pour éviter ce genre de scories qui ternissent une performance.
Matuidi, t'as toujours un minimum garanti, même s'il est pas bon avec ses pieds, au moins il court, il cavale, tactiquement.
C'est ce qu'il a beaucoup fait.
Non, mais je veux dire, quand il est un peu moins bien techniquement, de toute façon, vous avez quand même un minimum garanti par son activité, son volume. Moi, je trouve que ce milieu de terrain, il faudra voir comment il va être repensé pour la Ligue des Champions, mais je trouve que ça manque quand même de créativité. Après, Rabiot peut casser des lignes par sa qualité de transmission. Il se projette également. Bettencourt, c'est un bon joueur, mais je trouve que ça reste un peu light.
Je pense que Pjanic leur manque, mais Pjanic,
c'est ce que j'allais vous demander.
Est-ce qu'il y a le risque de blessure alors qu'il a signé à Barcelone, transfert, etc. On sent que d'un côté comme de l'autre, Arthur Pjanic, on le fait plus trop jouer.
Je pense que de toute façon, on lui a peut-être dit aussi, tu connais de Barcelone, c'est bien gentil, mais si tu commences à jouer à la Juve et tu te blesses, nous le transfert, on va le remettre en cause.
Je dis ça, mais ils vont peut-être gagner la Ligue des Champions, mais on a le droit de... On parlait parlais de Gasperini tout à l'heure, qui avait une expérience à l'Inter, qui a été très bon avec, qui est très bon avec Bergame. Mais moi, je suis un peu déçu du rendu de la part de Mauricio Sarri en termes de jeu, en termes d'animation offensive. Ronaldo, il joue sur son talent, par à coup, mais parce que c'est un chasseur de buts hors pair. Et de l'autre côté, vous avez Dybala. Mais en termes de football, en termes de, d'animation avec une pointe, franchement, c'est assez, c'est basique, quoi, ce que fait la Juve. Tu vois ce qu'ils produisent de l'autre côté, quand tu vois d'autres équipes européennes comme Manchester City, comme le Bayern, c'est une équipe de transition offensive avec une larme absolue qui s'appelle Ronaldo. Donc on reste un peu sur notre faim.
Ce qui prouve que le poids de l'entraîneur est parfois limité quand les joueurs sont en place depuis très longtemps. Parce que le problème de Sarri, c'est pour ça que certains joueurs, ils irritent un petit peu, c'est que lui, il a un jeu de transmission, de passe qui est très précis. Et là, le problème, c'est que Ronaldo, il jouera comme Ronaldo a envie de jouer. C'est quand même pas Sarri qui va demander à Ronaldo comment jouer.
Bonucci, vous n'allez pas le changer. C'est sa première saison à la Juve en ce moment.
Hein?
C'est sa première saison à la Juve.
Donc, il ne le changera pas. Bonucci, il a 33 ou 34 ans. C'est pas aujourd'hui. Il dit, ah, Bonucci, mais attends, je pense qu'il ne faut pas jouer comme ça. Ta première passe, elle va aller là. Ouais. Je me souviens toujours ce que m'avait dit Kalilou Koulibaly une fois. Il m'avait dit, il était à Naples, donc avec Mauricio Sarri. Et il voit une balle qui arrive. C'était fin de match, 89e. Il me dit, j'envoie la balle le plus loin possible. Oh! Parce qu'on était sous pression, on pouvait prendre un but. Et là, je me fais engueuler. Bon, d'accord. Fois d'après, 89e ou 88e, pareil, je suis sous pression. Là, j'ai peur. Je fais une passe, je la rate. Prise par l'adversaire, on a failli avoir but. Je me suis dit, oh là, je vais me faire tuer. L'entraîneur, bravo. Et ben voilà. Donc, mais Bonucci, je suis sûr qu'il balance, il faut balancer.
Bah oui.
Bon, en tout cas, la Juve bien partie pour conserver son titre de champion d'Italie. Ce soir, dernier match de la 32e journée de Serie A, l'Inter Milan reçoit le Torino et les interistes peuvent reprendre la 3e place à l'Atalanta en cas de victoire, voire la 2e à la Lazio, selon le score. Elle est maintenant la suite.
Manchester City's two-year ban from European football has been lifted.
Well, Manchester City have appealed and won their right to play in the Champions League next season. Of course, sitting second in the Premier League means that they will be there.
Cette petite musique qui nous fait toujours autant frissonner, les Citizens vont pouvoir l'entendre pour de vrai dans un stade la saison prochaine. Le tribunal arbitral du sport a annulé ce matin la suspension de Manchester City qui a été exclu pour 2 ans des Coupes d'Europe. City sera donc présent en Ligue des Champions à la rentrée. Réfé, est-ce que vous pouvez nous rappeler le déroulement de la procédure ? Donc je rappelle que l'UEFA considérait que City avait enfreint les règles du fair play financier.
Voilà, alors on va dire que l'origine de l'affaire remonte à novembre 2018. Des documents fournis par Football Leaks semblent prouver que Manchester City a trafiqué ses contrats de sponsoring entre 2012 et 2016 afin de tromper la vigilance du fair play financier de l'UEFA. Il s'agit notamment d'un contrat avec Etihad Airlines qui aurait en réalité été abondé par le propriétaire du club. Manchester City dénonce une campagne contre l'image du club à partir de documents volés. Effectivement, les documents provenaient d'un vol de documents et sortis de leur contexte. Et l'UEFA lance une enquête et en février dernier, elle décide d'exclure le club des compétitions européennes pendant 2 saisons avec à la clé une amende de 30 millions d'euros. Les TAS vient finalement de donner raison à City, estimant que les preuves de la tromperie ne sont pas établies ou ont prescrit et qu'une exclusion des compétitions serait trop sévère alors que la seule faute prouvée est de ne pas avoir coopéré avec les contrôleurs financiers de l'UEFA. Il annule ainsi la suspension de 2 ans et réduit l'amende de 30 à 10 millions d'euros.
Grand soulagement à Manchester City.
Grand soulagement.
On s'en soulageait, Hervé, non?
Oh là, moi je suis soulagé.
Vous êtes très beau avec votre maillot de Manchester City, vous êtes très beau.
Ah, oh, je suis comme ça maintenant. Mais alors, méga claque pour le fair play financier. Non, parce que là, pour l'UEFA, c'est quand même un truc incroyable. Et rappelez-vous quand même que le Paris Saint-Germain avait été aussi, failli passer sous les fourches codines aussi de ce fair play financier. Bah, de la même manière,
Oui, c'était une histoire de prescription.
Vice de procédure pour le PSG. Voilà, mais, pas sur le fond, sur la forme.
Mais je pense que
là aussi, on connaît pas tous les détails, mais on a l'impression que c'est plus sur la forme que sur le fond.
Et donc, ce qui va se passer, de la même manière, ils doivent se dire, maintenant, on est soulagé. Donc, pour Manchester City, évidemment, là, ça change tout. Déjà, Guardiola, maintenant, on a la certitude, je pense qu'il va rester à Manchester City, même si on se doutait bien qu'il allait y rester. Des joueurs avaient déjà annoncé, Kevin De Bruyne avait dit de toute façon, même si on est suspendu, je resterai. Mais maintenant, ça va, c'est un appel d'air aussi pour les joueurs qui veulent venir, parce que ça change quand même beaucoup de choses.
Donc tu as raison, vous avez raison, Hervé, pardon.
J'aime bien quand vous m'appelez-tu.
Se pose maintenant la question de la crédibilité du fair play financier. On écoute rapidement l'analyse de Pierre Rondeau, qui est expert en économie du sport.
On ne sait pas comment City a argumenté. S'il a argumenté en démontrant qu'il a respecté le fair play financier et que les révélations de Football League sont fausses et éhontées, City a été dans son droit, il s'est dit à respecter le règlement. Si maintenant il s'avère que City s'est simplement défendu en démontrant l'irrecevabilité des preuves et l'illégitimité du fair play financier, clairement ça fera jurisprudence et d'autres clubs qui pourront être sanctionnés dans l'avenir pourront utiliser les mêmes argumentaires pour être blanchis par le TAS.
Pierre Rondeau, joint tout à l'heure par Hugo Moissonnier. Donc le tribunal arbitral du sport rendra les détails du jugement dans quelques jours et effectivement la question va être de savoir si City a gagné sur le fond ou sur la forme.
Bah là, ça va être très intéressant de voir les attendus, parce que tout est là. Là aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais si c'était le cas, effectivement, alors là, vous savez, les châteaux de cartes,
les châteaux de cartes. Comme le dit Pierre Rondeau, ça jette par terre.
C'est fini. Là, c'est un château de cartes d'un seul coup. Tchouc.
Moi, je suis pour ça. Je suis pour qu'on arrête l'hypocrisie sur cette histoire. Je trouve qu'au niveau du droit, de la concurrence au niveau européen, c'est soit vous assumez le fait que c'est complètement libéral et le marché est ouvert, puis vous mettez l'argent et vous investissez ce que vous voulez. Alors, je veux bien qu'on mette certaines règles, mais je trouve que ces règles-là, elles ont surtout à tenter aux nouveaux riches entre guillemets, parce que du côté, vous retrouvez jamais la Juve, vous retrouvez jamais le Bayern, vous retrouvez jamais le Real, vous retrouvez jamais le.
La preuve, c'est que Javier Tebas, qui est le président de la Liga espagnole, qui défend toujours les intérêts des clubs historiques espagnols, s'est indigné de ce jugement qu'il estime totalement infondé.
Donc il y a quand même une forme de géopolitique des clubs européens derrière. Ou alors, dans ces cas-là, on fait comme aux États-Unis d'Amérique, on fait des ligues fermées, avec on plafonne les salaires, on plafonne les investissements des clubs, mais on l'assume. Mais entre deux et vouloir pénaliser les nouveaux arrivants, parce que c'est vrai que c'est après ça peut poser des questions, comme c'est des fonds souverains parfois et que c'est des États derrière. Bon, voilà, dire c'est un problème qui est beaucoup plus global qu'on ne le pense.
Bah Manchester City, c'est quasiment ça, et le Qatar avec le Paris Saint-Germain, évidemment, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas un problème d'argent. Vous pouvez prendre Neymar 220 millions, Mbappé 200 millions, et puis en plus en rajouter 3-4 à 150 millions.
Est-ce qu'on assume la déréglementation?
Alors soit on l'assume, mais l'idée effectivement, tu parlais d'une ligue fermée. Style NBA, et pourquoi pas, mais ça va quand même changer radicalement les habitudes en Europe, et c'est pas une certitude que ça puisse prendre aujourd'hui, surtout avec le poids des gros clubs.
Mais il n'y a pas d'Europe du football. C'est difficile d'imaginer qu'au moment où on a une crise financière énorme, qu'on claque la porte au nez des ceux qui viennent investir des sommes importantes.
Je comprends aussi l'idée qu'il y avait derrière le fair play financier, alors peut-être qu'il a peut-être pas
été de rationaliser.
Une forme de rationalisation des coûts, parce que sinon, quelqu'un arrive avec de l'argent, il fait ce qu'il veut.
Mais plus on fait ça, plus on pousse les gros clubs à s'organiser entre eux. Je veux dire, pour eux,
ils font partie de ces gros clubs, de toute façon. Manchester City, Paris Saint-Germain, s'il y avait une ligue fermée, ils seraient les premiers à venir.
Et après, cette décision, de manière terre à terre, va peut-être booster aussi les joueurs de Manchester City par rapport à la Ligue des Champions, puisque leur avenir était incertain. Aujourd'hui, certains vont se sentir sécurisés. Vous parliez de De Bruyne, mais d'autres joueurs auraient pu se poser des questions sur leur avenir. 2 ans de Ligue des Champions dans une carrière, pour des joueurs qui aspirent à des titres et des titres individuels, c'est énorme.
Des joueurs qui ont 28, 29,
exactement,
30 ans.
Exactement.
Même si la chance qu'ils ont, c'est de jouer de la Ligue des Champions quasiment tous les week-ends.
Et est-ce que vous pensez qu'ils avaient ça en tête, les joueurs, ces derniers temps? Est-ce qu'ils pensaient au fait que...
Oh non, quand ils jouaient, les joueurs...
Non, mais pas forcément pendant les matchs, mais au quotidien, est-ce que c'était un sujet abordé?
Par contre, ils l'ont abordé aujourd'hui, certainement. Ils attendaient, comme tout le monde, le résultat, parce que ça, ils sont dans le club.
La rumeur, depuis quelques semaines, laissait entendre quand même qu'il n'y aurait pas une sanction.
Ouais, les rumeurs et la réalité, parfois.
Après, tu le vis moins mal de rater la Ligue des Champions en Angleterre que peut-être en Italie, ou au Portugal ou en Grèce, parce que, comme l'a dit à juste titre Hervé, tous les week-ends, c'est la NBA quoi, chez eux. Donc.
Non, mais pour moi, le plus embêtant pour City, ça aurait été que... Une sanction aurait jeté une ombre quand même sur tous les titres que City a gagnés jusque-là. Ça aurait dévalué un petit peu la valeur de ce que City a réussi à faire depuis que les Émirats ont investi le club en 2008.
Oui et non, parce que en Angleterre, il n'y a pas eu de problème. C'est vraiment un problème européen. Et comment en Coupe d'Europe, ils n'ont rien gagné? Ça ombre pas tellement leur parcours anglais, parce que là, de ce côté-là, ce qu'ils ont réussi à faire, mais en dépensant des sommes phénoménales, on est à plus d'un milliard.
C'est comme lorsqu'un athlète est dopé et on pense que toute sa carrière est un peu mise en cause, même si, s'il s'est dopé une semaine avant.
Après, c'est l'argent qui parle quand même, parce que on peut aussi se poser la question du poids des clubs, parce que le Paris Saint-Germain et Manchester City ont réussi à passer à travers les gouttes, mais en même temps, vous avez par exemple l'Olympique de Marseille et mieux Milan AC, qui ont été sanctionnés. Milan a même été sanctionné de non-compétition européenne, notamment en Europa League. Donc ça pose aussi la question, voilà, du poids des clubs.
Ouais, mais comme c'était pas pour les mêmes faits, c'est toujours pareil. C'est qu'après, il va falloir voir les attendus, savoir exactement ce qui en ressort de cette décision du TAS.
Alors, l'horloge tourne, mais avant de terminer, messieurs, je vous signale que nous célébrons un anniversaire aujourd'hui. Je change complètement de sujet.
Joyeux anniversaire.
Mais alors, joyeux anniversaire à qui ou à quoi?
À une finale, but, quelque chose.
Au premier but de l'histoire de la
On est 13 juillet, là.
Oui.
Une finale. Hervé, je crois.
Alger. Oui. Premier but, un Français qui a marqué le premier but de l'histoire des Coupes du Monde.
Très bonne réponse.
Vincent, Jean-Vincent
d'Hervé Penaud. Non.
Oh, non.
Lucien Laurent. Lucien exactement. Laurent.
Ah oui.
Exactement. Mais c'est même la Coupe.
Vincent, c'est un peu plus tard.
Oui.
Et David Vincent aussi.
Ah oui, beaucoup plus tard. C'est l'envahissement du football.
Alors c'est même la Coupe du Monde qui fête 90 ans aujourd'hui, effectivement, donc 13 juillet 1930, France-Mexique en Uruguay à Montevideo, donc c'est le premier match de l'histoire de la Coupe du Monde, et à la 19e minute, Lucien Laurent a ouvert le score d'une superbe reprise de volée, et du coup il est devenu à 22 ans le premier buteur de l'histoire du Mondial, et il est revenu sur ce moment historique quelques années plus tard.
Il est rapide, clavier droit. Il chante, il s'en va, il drift en arrière, il saute en retrait, et moi qui l'ai suivi, pop, dans la lucarne.
Et but.
Et but.
On vous en a beaucoup parlé de ce but?
Non, même pas. Même pas. On n'a même pas fait état que. Ça s'est déclaré beaucoup plus tard, ça, l'histoire du but, là. Je sais pas qui c'est qui a amené ça. C'est pas moi, toujours. C'était un début, et puis personne n'y croyait beaucoup, et puis je sais pas, il n'y avait pas l'engouement de maintenant, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait rien, quoi.
Et les Français ont finalement remporté ce match 4-1, Hervé.
Et oui, c'est une autre époque. Hein. Ils étaient partis en bateau pour aller faire cette Coupe du Monde. Ils passaient deux semaines, ils s'entraînaient un petit peu sur le pont. Enfin, ils avaient même récupéré quelques joueurs. Il y avait des joueurs qui étaient pas professionnels. Ils avaient récupéré quelques joueurs à droite à gauche. C'était des Coupes du Monde sur invitation. Et il n'y avait pas d'équipe africaine, évidemment.
C'était pas professionnel non plus. Hein. C'était des...
Non, à l'époque, il y avait seulement 13 pays.
Sept
d'Amérique du Sud et 4 en Europe.
Ah, sympa.
Absolument. Mais c'était aussi une Coupe du Monde sur invitation. Hein. Donc c'est l'équipe d'ailleurs qui avait lancé.
Il y a des pays qui n'ont pas voulu participer parce qu'ils n'étaient pas contents. L'Uruguay avait été désigné, vous savez pourquoi? Parce qu'il avait gagné les deux tournois olympiques précédents, qui étaient un peu l'équivalent de la Coupe du Monde avant qu'elle soit créée.
Ouais, et c'est vrai que les équipes ne voulaient pas perdre du temps, envoyer des joueurs là-bas, parce qu'ils s'étaient dit, de toute façon, pour ceux qui avaient un emploi, il fallait partir 2, 3, 4 semaines. Et ils n'avaient pas cette sensation, effectivement, de participer à un événement historique.
Et dernière question, qui avait décidé d'organiser cette Coupe du Monde?
Rimet. Coubertin, non?
Rimet.
Bonne réponse encore une fois pour Hervé Penaud.
Coubertin, c'était JO, non?
Exactement, Pierre de Coubertin,
il y a
c'était les JO.
Toujours un Français dans le coup. Hein.
Exactement.
Un Français, non, l'histoire de la Coupe du Monde, Jules Rimet. D'ailleurs, c'est la Coupe du Monde depuis.
Jusqu'en 70, je crois que c'était appelé la Coupe Jules Rimet, si je ne dis pas de bêtises.
C'est
le Brésil qui l'a.
Rattrape-toi,
je peux en dire d'autres. Après, le premier pays africain qui a participé à une Coupe du Monde, c'était en 34, non? C'était l'Égypte, non?
Oui, absolument. L'Égypte, exact.
Ouais, bon, je ne veux pas forcer, je veux pas. Voilà, je reste discret.
Et qui a joué la finale de cette première Coupe du Monde?
Uruguay-Italie, non?
Argentine.
Ah non. Ouais. L'Uruguay a gagné les deux premières, non?
L'Uruguay a gagné.
Bon, on va s'arrêter là.
La première.
Pour les quiz, hein, parce que sinon on pourrait passer encore beaucoup de temps à.
Absolument.
À se faire un trivial poursuite de foot. Bref, merci à tous les trois, Hervé Penaud, Nabil Djellit et Alejandro Valente. Merci également à Sarah Lou Bacouche pour la préparation et à Laurent Salerno qui était aux manettes, comme d'habitude. Et demain, vous retrouverez Hugo Moissonnier. Très bonne soirée sur RFI.
Plaisir.
Merci.
Et bravo, Marie-Marie.
Bravo à toi. We'll be right back.